Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal, local et régional.
Reconduite du mouvement de grève et de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites ce jour du 31 janvier. Mobilisation ce jour à Villefranche-sur-Saône. Nous engageons une discussion avec Jacques Dacuna, membre du collectif éducatif Beaujolais-Val-de-Saône. Remise du prix du meilleur gamète du monde 2023 au domaine Chorion à Cercier cette matinée. Du 30 janvier, nous sommes en compagnie de Romain Chanrion à cette occasion. Et en conclusion, loisirs pour les vacances scolaires de février prochain, idées et activités du côté du Centre culturel de Jassan avec Nathalie Petrosi-Pédagnan. Calade, le journal. Les fermetures de mairies contre la réforme des retraites sont-elles légales pour ce 31 janvier de grève ? De nombreux édiles, dont Anne Hidalgo, ont annoncé la fermeture de leur établissement en soutien au mouvement social contre la réforme des retraites. Dans le Val-Marne, rapporte Le Parisien, mais aussi dans le Nord, par exemple. Fermer une mairie en soutien à un mouvement social s'interroge. 20 minutes. Si elle n'est pas complètement inédite, c'est une action rare que de voir les mairies se mobiliser de cette manière contre un projet de réforme gouvernementale. Et si elle peut s'éteindre dans le cadre d'un affrontement politique, d'un soutien exprimé aux grévistes, selon Stéphane Sirot, historien et spécialiste des mouvements sociaux, contacté par 20 minutes, au niveau du droit, elle est bien plus discutable. Elle est même susceptible d'engendrer des recours, notamment de la part des conseillers municipaux. Par ailleurs, si la décision prise en solidarité avec le mouvement de grève du 31 janvier tend à ne pas pénaliser les grévistes financièrement, cela peut être interprété comme une subvention publique déguisée. Or, cette dernière ne doit jamais être attribuée à des fins politiques, souligne pour sa part Jean-Paul Marcus, professeur en droit public à l'université Paris-Saclay, contacté par 20 minutes. En outre, la décision de la mairie de Fâche-Thumesnil dans le Nord de ne pas décompter les heures de grève à partir de 14h va à l'encontre du principe de service fait, à savoir qu'on ne peut pas payer un agent si le service n'a pas été fait, déclare-t-il. Reste à voir si des conseillers municipaux vont donc tenter le recours en justice pour contester les fermetures prévues ce jour de grève. Reconduite du mouvement de grève et de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites ce jour du 31 janvier. 50% des enseignants devraient être en grève en ce mardi 31 janvier, selon les chiffres recueillis par le SNUPP-FSU, principal syndicat du primaire. Avec une grève des plus suivies déjà, le 19 janvier dernier, dans le corps enseignant, nous engageons une discussion avec Jacques Dacuna, membre du collectif Éducation Beaujolais-Val-de-Saône. Il est joint par téléphone.
Alors, je suis enseignant donc au collège Maurice Utrillo à Lima. Oui, tout à fait, oui. Selon l'établissement, c'était très variable, mais en tout cas, sur le secteur du Beaujolais-Val-de-Saône, on a eu quand même un taux de grévistes rarement atteint, parce que malheureusement, on est quand même dans une profession de plus en plus de gens résignés. Là, pour le coup, on a quand même une mobilisation très forte. Dans mon collège, où il n'y a pas énormément de grévistes habituellement, on était plus de 50%, mais il y a des établissements où ils sont montés donc bien plus haut que cela, et je ne parle pas des écoles primaires, hein. Certaines étaient complètement fermé, puisque toute personne était gréviste. Donc, globalement, on a eu un taux de grévistes qui a été beaucoup plus élevé que d'habitude, je dirais absolument partout. Et ce qui était surprenant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui habituellement ne font pas grève ou n'ont pas cette culture de la grève ou n'osent pas faire grève, qui là, pour le coup, ont passé le cap et sont venus, ont fait grève et même sont venus manifester. Je me souviens qu'en 2019, il y a des collègues que j'ai connus par ailleurs, parce que j'ai travaillé dans plusieurs collèges et que jamais j'avais vu dans les rangs des manifestants et qui là étaient présents. Donc, ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui interpelle beaucoup de personnes, y compris ceux qui n'ont pas la logique de faire grève ou ni même de manifester.
Alors comment vous le sentez aujourd'hui? Ça sera la véritable surprise ou on a déjà un sentiment dans les équipes, dans les collectifs, etc.
Alors disons qu'on on prospecte un petit peu autour de nous, on discute avec les collègues qui ont été grévistes, qui l'ont pas encore été. Donc c'est vrai que des personnes qui m'ont dit finalement je pense que je vais l'être alors que je l'ai pas été la première fois. C'est compliqué de savoir en réalité, c'est compliqué de demander, sinon on risque d'être un petit peu intrusif et quelque part la grève reste quand même un droit individuel qu'on applique ou pas. Souvent nous ce qu'on essaie de dire c'est que on peut comprendre que pour des raisons qui se varient, financières notamment, enchaîner un deuxième jour de grève ça soit parfois compliqué, et on pense en particulier à tous ceux qui sont nos AED, les surveillants, les AESH, hein, qui évidemment pour elles une grève c'est lourd, hein. hein, qui elles, ce sont des femmes qui sont à l'AESH, c'est vrai, malheureusement d'ailleurs, c'est qu'il faut laisser des hommes qui se décident. Hein. Mais c'est vrai que pour elles, on comprend que ce soit lourd de perdre une journée de travail, alors vous imaginez pas deux, ce serait, c'est compliqué. Donc on leur dit souvent, bon, à défaut d'être gréviste, ça n'empêche pas d'être manifestant. Parce que je pense que le poids, enfin, le nombre de personnes dans la rue compte peut-être même plus que le nombre de gens qui n'iront pas travailler. Et ça, je pense que c'est important. Je pense que c'est un marqueur qui est beaucoup plus important. Donc nous, on essaye d'insister là-dessus. Voilà, là, moi, j'ai une petite idée que malheureusement, on ne sera peut-être pas aussi nombreux, parce qu'il y a un peu une logique où on est très nombreux une fois et on pense que ça va suffire à faire bouger les lignes. Et en fait, non, on sait très bien qu'un mouvement de grève, pour qu'il marche, pour qu'il soit dans la continuité, je dirais malheureusement dans un affrontement qui doit durer souvent sur plusieurs jours, même si on n'est plus dans des grèves reconduites de jour en jour comme on a pu connaître comme en 95 par exemple. Voilà, je peux pas faire de pronostic, je peux pas me prononcer, c'est bien compliqué. Sûr. On espère que les troupes resteront mobilisées et dans l'idéal même qu'on sera encore plus nombreux. Voilà.
Jacques Ducuna, revenons peut-être aussi effectivement sur le collectif qui est d'accord avec un abandon du projet total, hein, c'est ça hein.
Bah, complètement, disons que le problème principal ici et sur lequel nous on appuie, c'est ce report à 64 ans. Et quand je dis 64 ans, c'est pour ceux qui auront la chance d'avoir une carrière complète, donc une retraite pleine. N'oublions pas que tous ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, ils ne pourront bénéficier d'une retraite complète qu'à 67 ans. Je pense que c'est un point sur lequel beaucoup n'ont pas beaucoup insisté, mais on a de plus en plus de personnes qui ont connu des ruptures dans le travail, des personnes, des femmes, parce que c'est surtout des femmes, il faut le dire aussi, qui font le choix de s'arrêter des fois plusieurs années pour élever des enfants. Donc on a quand même des personnes qui vont se retrouver dans l'idée que bon bah 64 ans, bon bah voilà, je ferai cet effort supplémentaire, et qui ne savent peut-être pas qu'en fait c'est pas 64 ans qui leur sera demandé, mais beaucoup plus.
Parce qu'il y a une décote, hein, c'est ça.
Eh ben ça fait une décote. Donc c'est bien gentil de parler de ce projet de retraite minimale à 1 200 €. Alors c'est bien, c'est un petit peu la tarte à la crème que nous donne le gouvernement pour nous vendre son projet. Il y a quand même deux choses qu'il ne faut pas oublier. C'est encore une fois, faut-il avoir une carrière complète, et on sait que c'est surtout les femmes qui sont touchées par les petites retraites. Combien seront donc concernés par cette décote, elle risque d'être extrêmement nombreuse. Et la deuxième chose, il ne faut pas oublier que c'est une loi qui date de 2003, qui n'a jamais été mise en application. Je suis donc très surpris, alors content que ça sorte maintenant, mais très surpris que ça sorte maintenant, un petit peu comme la cerise sur le gâteau qu'on veut nous vendre pour justifier le projet. C'est très bien, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, d'une part. Et je rappelle que le gouvernement a décidé de mettre en application ce principe-là dès maintenant pour ceux qui n'ont pas été concernés encore. C'est très bien, c'est gentil pour eux. Mais si vous voulez, on a un petit peu l'impression que derrière tout ça, il y a un petit peu une logique un peu électoraliste, parce qu'on sait que les retraités ont majoritairement voté, retraités plutôt aisés ont majoritairement voté M. Macron, ils font partie de ceux qui l'ont majoritairement élu. Donc le gouvernement cherche encore un soutien supplémentaire dans le rang des petites retraites. Je comprends très bien que ces gens puissent trouver ça sympathique pour eux, mais j'ai envie de vous dire, on ne doit pas réfléchir que par rapport à soi. Il faut réfléchir d'une manière globale. C'est pour ça que la question des 64 ans, elle n'est pas acceptable pour personne, et c'est la première fois quand même, enfin c'est pas souvent qu'on a eu quand même toutes les fédérations syndicales qui s'unissent, ça veut dire quand même quelque chose. Hein. On a vu le poids de la CFDT dans les manifestations, parce qu'en effet, elle-même a été vent debout contre ce projet, parce que tout le monde trouve ce projet injuste et surtout injustifié. C'est surtout ça la question. Moi, j'ai envie de vous dire, moi, si on me disait vraiment notre système, il est en danger, vraiment, et on ne peut pas faire autrement, je serais le premier à dire, ok, il faut faire quelque chose. Mais on sait très bien que ce n'est pas le cas. C'est un choix politique et idéologique qui a été fait. Ce n'est pas un choix de santé financière. Voilà, c'est pour ça que tout le monde est contre ce projet. Enfin, tout le monde, toutes les centrales syndicales, et je crois plus de 3/4 des Français.
C'était Jacques Ducuna, membre du collectif Éducation Beaujolais-Val-de-Saône. Mobilisation ce jour du 31 janvier à Villefranche-sur-Saône contre la réforme des retraites, place de la Libération à 16h30 à l'appel des intersyndicales. Remise du prix du meilleur gamay du monde 2023 au domaine Chorion à Cercier. Nicole et Romain Chorion se sont vus remettre cette fin de matinée du 30 janvier le trophée de cette honorifique distinction pour leur Côte de Bouilly 2020, sacré meilleur gamay du monde 2023 du concours international du gamay par Armorial, organisateur de l'événement, en collaboration avec l'Inter Beaujolais. Les propos recueillis de Romain Chorion à cette occasion.
Alors je pense, ce qui est important, c'est de ne pas rester enfermé dans l'immobilisme et apporter de la modernité. Alors modernité, ce n'est pas toute une révolution, mais c'est des évolutions qui sont indispensables à la pérennité d'une exploitation. Donc on a travaillé sur les lieux-dits, la valorisation des terroirs en Côte de Brouilly. en faisant des sélections parcellaires, des élevages parcellaires. L'environnement, c'est quelque chose de quotidien qui nous anime parce qu'on vit dans nos vignes, on aime nos vignes et j'ai envie de dire qui mieux que nous peut souhaiter quand même un environnement sain et qui est en fait indispensable à la pérennité du vignoble. Et après, c'est aussi travailler sur la promotion de nos vins. Donc c'est quelque chose qui il y a eu beaucoup de travail de fond et qui n'est pas terminé. Il y a les prochains enjeux quand même sont la restructuration du vignoble face aux enjeux climatiques. Voilà, c'est des décisions qu'il faut prendre, qui ne sont pas forcément évidentes à prendre et qui conditionnent la pérennité d'une exploitation. Parce qu'on ne plante pas une vigne pour dans 5 ans. On plante une vigne pour 20, 30, 40 ans. Voilà. Donc il faut avoir une vision. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements qui interviennent aujourd'hui, tant au point de vue climatique, sociétal. Et il faut s'adapter à ça.
Vous avez des pistes, effectivement
S'il y avait une solution, ouais. Voilà, on se rend compte qu'il y a différents modèles dans le Beaujolais qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. On ne peut pas critiquer. Chaque vigneron essaye de faire au mieux. On a des terrains, des coteaux, difficilement mécanisables. Donc il faut s'adapter. Ce n'est pas les mêmes problématiques quand on est sur du coteau, en plaine, que ce soit sur des sables, sur des cailloux. Pour autant, il faut trouver quand même une certaine homogénéité au sein d'une exploitation parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir différents tracteurs, d'avoir différents matériels. Voilà. Donc il faut essayer de rester global.
L'heureux élu, le Côte de Brouilly 2020, sacré meilleur gamay du monde 2023. Quelles textures et atouts gustatifs pour le millésime lauréat 2023.
Alors, cette cuvée, en fait, c'est un ensemble de caves. C'est pas une cuvée proprement dit, c'est un ensemble de caves. Je tiens à le préciser, bon, parce que ça change un petit peu les choses. Moi, je fais la comparaison avec la musique, et je l'ai déjà dit, à un peu un orchestre. Un orchestre, chaque famille d'instruments va apporter de la complexité à un morceau de musique, et là, en fait, chaque lieu dit. Alors là, je mets en avant les lieux dits de la Côte de Brouilly, que ce soit l'Écrose, Chardignon, Godefroy, Le Pavé, qui font l'objet d'une caractérisation et d'une montée en gamme. En fait, chaque lieu dit va apporter sa spécificité, qu'on valorise pendant les vinifications. Et donc, c'est ça qui va apporter la fraîcheur, la complexité, la puissance. Et on veut, avec ça, faire quelque chose d'harmonieux. Voilà. Donc, peut-être, ça apporte une certaine complexité.
Et alors, quelle saveur, plus particulièrement, qui a donné envie à un jury de vous nommer lauréat 2023?
Le millésime 2020, c'est quand même une année solaire, comme on a depuis quelques années. J'ai envie de dire, sur la colline de Brouilly, sens général, c'est-à-dire Terre des Brouilly, Brouilly et Côte de Brouilly, sur cette localité, on a quand même eu particulièrement de la chaleur. Plus au nord, il y a eu quelques orages qui ont apporté de la fraîcheur. Nous, on a vraiment, je vais utiliser un terme qui n'est pas forcément positif, mais était sinistré. Et en fait, cette énergie, on la retrouve entre guillemets dans la bouteille. Voilà. C'est pas un hasard que l'année dernière, c'est un 2020 sur Audena, qui est quand même proche. Voilà. En fait, ça monte en fait une certaine logique avec la récompense du Côte de Brouilly 2020 cette année.
C'est Nicole et Romain Chanrion qui se sont fait remettre le trophée de l'honorifique distinction du meilleur gamay du monde 2023 au domaine Chanrion à Cercier pour leur Côte de Brouilly 2020, sacré meilleur gamay du monde 2023 dans le cadre du concours international du gamay par Armoria, organisateur de l'événement, une collaboration avec l'Inter-Beaujolais. Et enfin, pour conclure cette édition, loisirs pour les vacances scolaires de février prochain. Il faut y penser. Idées et activités du côté du Centre culturel de Jassan avec Nathalie Petrosi-Bédanian. Elle est jointe par téléphone.
Oui, alors aux prochaines vacances de février, on aura un stage théâtre-cinéma. Donc on avait eu un stage théâtre déjà aux précédentes vacances. Et là, l'idée, c'est de montrer les deuxièmes facettes du métier d'acteur aux enfants. Donc être acteur, c'est aussi le cinéma et c'est très différent du théâtre. Et on aura également un stage choral, voilà, avec donc une direction de chorale et comment apprendre aussi à chanter, le rythme, etc. L'objectif étant de l'année prochaine essayer donc d'ouvrir une petite école de théâtre, en tout cas des cours de théâtre pour enfants, puisqu'on est un lieu, donc on ne le répétera pas assez souvent, de résidence. Et nous, ce qui nous intéresserait, c'est aussi que les enfants qui suivent des cours de théâtre puissent découvrir la création et rencontrer des vrais artistes. Voilà,
donc,
c'est un projet
prochaine.
Pour l'année prochaine.
Très bien.
Qui nous tient à cœur.
Idée, ne manquez pas les rendez-vous, loisirs et activités du côté du Centre culturel de Jassan, ces vacances scolaires de février prochain. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.